Chapitre 24. Sur l'Everest, certaines pistes qu'on met des jours, voire des semaines à gravir, peuvent souvent être descendues en quelques heures seulement, un long après-midi. Du moins lorsqu'il y a des cordes fixes. Nous avions retiré presque toutes celles que nous avions précédemment installées afin de ne pas faciliter l'ascension des Allemands. Nous avions également enlevé les piquets et drapeaux qui séparaient la bonne voie de dangereuses impasses se terminant en murs de neige verticale et en longues chutes sur le glacier du Rongbuk ou du Rongbuk Est. Passang semblait connaître le chemin. Les nuages se refermaient maintenant sur nous et le grésil lacérait les petites parties de mes joues dénudées à l'extérieur du masque à oxygène. J'avais réglé le flux sur 2,2 litres par minute. La plupart du temps, mon compagnon semblait ne même pas utiliser son appareil. Mais je ne réussissais pas à faire passer assez d'air par ma gorge enflée. Et chaque inspiration me causait un mal de chien. Des choses étranges se produisirent pendant ces quelques heures. Quand nous fûmes sur le site de notre ancien camp 5, où les Allemands avaient incendié la dernière tente Whymper, Passang me fit asseoir sur un rocher près des vestiges calcinés et y noua ma corde d'escalade pendant quelques minutes, comme si j'étais un enfant ou un poney tibétain, le temps d'aller chercher les appareils à oxygène et les réserves de nourriture que nous avions cachées derrière les blocs de roche à l'est vers l'arête nord. Du moins si Siegel et ses comparses ne les avaient pas trouvés et accaparés. Pendant que j'étais assis là, retirant mon masque à oxygène à intervalles réguliers dans des tentatives désespérées de puiser de l'air et de l'oxygène dans l'atmosphère, Jean-Claude descendit de la pente neigeuse pour venir s'asseoir près de moi.
« Je suis très heureux de vous voir, » lui dis-je de ma voix rocailleuse.
« Moi aussi. Je suis heureux de vous voir, Jake. »
Il me sourit et se pencha en avant pour poser le menton sur ses mains gantées, appuyé sur la panne de son piolet. Il ne portait pas d'appareil à oxygène, ni de masque. Je supposais qu'ils avaient été arrachés pendant sa chute sur le glacier.
« Attendez, »
dis-je en m'efforçant de penser clairement. Je savais que quelque chose n'était pas logique, mais pendant une minute, je ne parvins pas à déterminer quoi.
« Comment se fait-il que vous ayez votre piolet ?»
demandai-je finalement.
« Je l'ai vu attaché au sac à dos de Reggie quand le diac réel ont pris la direction du sommet. »
Jean-Claude me montra le fin manche de bois. Il y avait trois encoches aux deux tiers.
« J'ai emprunté celui de Sandy à Erwin, là où vous l'aviez laissé sur le rocher, » répondit J.C. « Sandy m'a dit que ça ne le gênait pas. »
Je hochai la tête. C'était donc ça.
Finalement, je rassemblai le courage de demander.
« Qu'est-ce que ça fait d'être mort, mon ami ?»
J.C. haussa les épaules, de cette manière désinvolte qu'il avait, et m'adressa ce sourire que je connaissais si bien.
« Être mort, c'est un peu comme être vivant, mais pas si lourd, »
répondit-il en français.
« Je ne comprends pas. Pouvez-vous m'expliquer, j'y sais ?»«
Bien sûr. »
Il replanta la pointe de son piolet dans la neige pour pouvoir se reposer dessus en me faisant face.
« Ça veut dire... Jake !»
La voix de Passang me parvint au milieu des rafales de neige.
« Je suis là !»
répondis-je aussi fort que je pusse en crier de douleur.
« Je suis là, avec Jean-Claude !»
J.C. sortit sa montre de la poche de son duvet Finch.
« Je dois partir devant, pour vous baliser le chemin. À plus tard, mon cher ami. »«
Ok, »
dis-je. Passang émergea du nuage de neige tourbillonnante avec deux nouvelles bouteilles d'oxygène pleines et un sac contenant des vivres, de l'eau et d'autres provisions.
« Je ne vous ai pas entendu, monsieur Perry. Que disiez-vous »
Je souris et secouai la tête. J'avais trop mal à la gorge pour répéter. Passang inséra la bouteille pleine dans mon harnais, régla la valve sur le débit maximum, s'assura que l'air circulait, puis m'aida à attacher les lanières de cuir de mon masque à oxygène à mon casque de motard.
« La température baisse, » dit-il. On ne doit pas s'arrêter avant d'être arrivé au camp 4 sur le col nord. Je vais vous attacher avec une petite longueur de corde, d'accord? Disons 4,50 m. Je veux pouvoir vous voir ou vous entendre si vous avez besoin d'aide.
Bien sûr.
répondis-je dans mon masque, même si mes syllabes étaient sûrement inintelligibles. Une fois qu'il eut noué la corde, je me levai, chancelai, recouvrai l'équilibre grâce à l'aide du Sherpa, et commençai à marcher vers l'abrupte face nord à gauche plutôt que vers l'arête nord. Passang me tapa sur l'épaule et m'arrêta.
« Il vaut peut-être mieux que je prenne la tête de la cordée pendant un moment, Monsieur Perry. »
Je haussai les épaules d'une manière que j'espérais aussi désinvolte que j'y sais un moment plus tôt, mais sans y parvenir, évidemment. Je piétinais sur place pour me réchauffer les pieds le temps que Passang me dépasse, puis je le suivis de très près.